C'est parti. Eh ben, donc, on est avec Stéphanie Pérez pour nos auditeurs et auditrices. Donc, vous êtes grande reporter chez France Télévisions. On va un peu expliquer votre métier, qu'est-ce que vous faites, comment ça fonctionne d'être grand reporter. Un peu pour vous présenter. Donc, vous partez souvent en mission de terrain pour faire des reportages sur l'actualité, donc surtout des pays qui sont en guerre. Vous avez été en Irak, en Iran, en Ukraine plus récemment avec le conflit et en Syrie aussi plus récemment. Comment déjà vous définiriez vous le métier de grand reporter?
Moi j'aime pas trop cette appellation grand reporter parce que ça fait un peu pompeux. À l'origine, à la base, moi je suis journaliste. Et je vais sur des terrains difficiles, mais je vais aussi sur des terrains beaucoup moins conflictuels. Grand reporter, c'est aussi un petit peu référence à l'expérience, on va dire. Moi, effectivement, je me suis spécialisée avec le temps dans les zones de conflit parce que je crois que j'ai toujours été attirée, j'ai toujours eu envie de comprendre. Comment on vit dans les zones de conflit, comment les civils comme vous et moi vivent quand ils sont emportés par une guerre qui les dépasse. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour arriver à ce poste-là.
Et justement, comment on devient... J'ai envie de dire un peu accro aussi quelque part, parce qu'on imagine d'aller toujours au conflit. Une personne normale, quand elle s'expose à un conflit, elle n'a pas du tout envie de revivre cette expérience. Comment on fait accro au final à ça ?
Non, je pense pas qu'on est accro. Après, c'est vrai que la première fois que je suis partie sur un terrain difficile...
Peut-être vous pouvez nous raconter un peu ce premier terrain.
J'avais commencé, j'étais partie en Centrafrique. C'était à l'époque, il y avait la guerre civile et c'est sûr que moi, j'avais jamais mis de gilet pare-balles. Je savais pas trop comment réagir. Donc c'était une première. Donc forcément, à ce moment-là, j'avais beaucoup d'appréhension. J'étais assez stressée. Heureusement, j'étais avec un collègue JRI, caméraman, qui avait de l'expérience, donc qui m'a transmis son expérience. Et puis, j'ai vu que j'arrivais à gérer. En fait, j'ai vu que j'avais pas trop peur. J'ai vu que je restais calme et j'ai vu que effectivement dans ces zones de conflit il y avait beaucoup d'histoires à raconter et moi c'est raconter des histoires qui m'intéressent. J'y suis retournée une deuxième fois. Là cette fois-ci c'était la première guerre en Ukraine 2014, la chute de la prise de la Crimée par la Russie. Et puis petit à petit, on s'habitue, on commence à avoir son réseau de fixeurs traducteurs, on commence à avoir ses habitudes et on y retourne. Maintenant, moi, quand je vais en Ukraine, il n'y a plus rien d'extraordinaire en fait dans le fait d'aller en Ukraine.
Et justement, comment ça se passe? Parce que vous faites des reportages qui sont peut-être assez courts, qui passent justement à la télévision. Mais vous restez plus longtemps sur le terrain. Comment ça se passe un peu ce quotidien du terrain? Au final, on vit la guerre et peut-être on vit aussi avec les personnes qui vivent cette guerre. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi cette chose qui est un peu insensée, que la guerre devient un quotidien?
Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que c'est intéressant et c'est important d'y aller parce que c'est vrai que quand on part trois semaines en Ukraine, on vit trois semaines au rythme des Ukrainiens. Comme tout le monde, quand on se couche, on ne sait pas où les bombardements de la nuit vont tomber. Quand on est réveillé en pleine nuit parce qu'il y a un obus qui s'est écrasé à quelques centaines de mètres, il y a un petit moment de doute où on se demande qu'est-ce qu'on fait. On prend la voiture, on part, on reste, on se met dans la salle de bain, on se cache. Donc on vit la vie quotidienne des Ukrainiens, mais c'est aussi ça qui fait la force du reportage, c'est que quand je parle de la situation en Ukraine, je sais de quoi je parle. Je me suis pas contentée de lire un journal ou de regarder les informations. Je l'ai vécu, donc je pense que ce témoignage-là, il est indispensable. Après, c'est sûr que bon, quand on rentre en France, il y a toujours un petit moment de décompression.
D'adaptation, de réadaptation.
Parce que voilà, on passe d'un endroit extraordinaire, au sens propre du terme, à la vie ordinaire. Donc il y a toujours un petit moment d'adaptation, mais bon, moi, quand je rentre, je reviens, je fais les courses, je m'occupe des devoirs de mon fils.
Tout de suite
se remettre dans la vraie vie.
Se remettre dans la vraie vie.
Parce que la vraie vie, c'est pas être sur des terrains de conflit. Ça, on y va, mais il faut revenir.
Et justement, est-ce que on imagine, est-ce que vous êtes suivi, est-ce qu'il y a des équipes de psychologues, comment ça marche pour, par exemple, des troubles qui pourraient arriver justement après les reportages?
Si on a envie, si on a besoin, on peut consulter un psychologue. Chez nous, France Télévisions nous propose les services d'un psychologue de façon anonyme. Moi, j'ai pas éprouvé le besoin, parce que si je me sens pas bien, si j'ai le moral un peu en berne, j'en parle à l'équipe directement. Et on s'en parle beaucoup, donc moi je garde pas les choses pour moi, je les exprime. Mais il y a possibilité, voilà, pour ceux qui le veulent, de consulter un psychologue pour surtout ne pas conserver toutes ces émotions, cette anxiété.
Oui, parce que du coup vous marchez énormément en équipe, même sur le terrain vous y allez en équipe.
Je pars en télévision, nous on part à trois depuis Paris, le journaliste, rédacteur, le JRI, caméraman, et le monteur, et on retrouve sur place notre équipe, chauffeur et monteur et fixeur. Donc au total on est cinq. C'est aussi pour moi la force du reportage télévisé par rapport au reportage de presse écrite où là on est plus seul. La radio pareil, mes collègues de radio ils sont plus seuls. Nous en télé, on peut parler, si on a un problème, on peut s'en parler. On a une équipe.
Et j'ai envie de continuer aussi la suite de notre discussion. À partir de quel moment vous sentez, par exemple, vous êtes sur le terrain, à partir de quel moment vous sentez qu'il y a un reportage, il y a quelque chose qui est en train de se passer, à quel moment vous allez commencer peut-être à filmer ou à suivre une personne? Est-ce que il faut déjà passer, je sais pas, une semaine dans le pays, dans le conflit, pour pouvoir commencer un reportage?
Non, hélas, maintenant on n'a plus le temps, hein, donc dès qu'on arrive il faut commencer à filmer, avec l'expérience, on sent les moments qui sont forts en images, les moments de bascule, on les voit arriver. Quand on parle avec les gens, on repère si une personne peut devenir un sujet du reportage, un personnage, comme on appelle, comme on les appelle. Mais ça, c'est l'expérience qui fait qu'on sent. Au moment de la discussion, il est en train de se passer quelque chose, et là on commence à tourner et on envoie le sujet, mais c'est jamais prédéfini en fait. C'est souvent c'est la force du terrain, c'est qu'il faut dans ce métier il faut s'adapter en permanence, il faut être réactif en permanence, et parfois on part avec une idée en tête et puis le soir c'est un tout autre reportage qu'on envoie parce que le terrain a parlé.
Et j'ai une dernière question à vous poser, c'est sur un peu la violence des conflits qui, on a l'impression, devient de plus en plus grave, ou en tout cas, ouais, je vais aller direct dans le vif du sujet, par exemple l'utilisation des drones dans les conflits de guerre, c'est un sujet, est-ce que ça vous fait peur en tant que reporter de toutes ces nouvelles armes qui sont développées, qui sont utilisées, quel risque ça a ?
Non, le drone, c'est ce qu'on redoute le plus. Le drone, c'est ce qu'on redoute le plus parce que c'est imparable, en fait. Et souvent, quand il est au-dessus de votre tête, c'est trop tard. Donc ça, pour le coup, et c'est vrai que ces temps-ci, en Ukraine, on sait que les Russes les utilisent encore 100 fois, 1000 fois plus qu'ils ne les utilisaient. Et ça, moi, quand j'entends le bourdonnement, c'est pour le coup quelque chose que j'aime pas du tout. Et on sait qu'on doit être extrêmement vigilant. Bon, et la plupart du temps, quand on sent que ça arrive, on va se cacher parce que c'est pas bon signe.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Stéphanie Pérez.
Merci à vous.
Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Vous
d'autres avez reportages.
D'autres reportages.
Mais avec parfois des belles histoires quand même.
Avec des belles histoires. Voilà.
Donc, et de l'espoir.
Très bien. Et ben, on vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci beaucoup.